France Inter. Chanteuse, auteure, compositrice et pianiste, Jeanne Chéral se rêvait médecin sans frontières ou s'imaginait danseuse ou enseignante avant de venir à la musique. Son dernier album, Jeanne, n'aurait pas abouti sous cette forme sans les encouragements de Benjamin Biolay, qui l'a réalisé et arrangé. Et pourtant, son héroïne a une discographie substantielle. La sensible doutait d'elle et s'était un temps mise en retrait en interprétant les chansons des autres, composées pour le cinéma. Il a fallu qu'elle croise l'amateur de collaborations féminines et de vestes sans manches à Cabourg pour revenir à elle-même, et je révélerai les arcanes de cette histoire dans quelques minutes. Jeanne est donc le 7e album de Jeanne Chéral. On y parle d'amour, de coït, d'anciens amants toxiques, d'accessoires de plaisir et de féminité. Son autrice est en tournée dans toute la France, bientôt à Nantes et au Printemps de Bourges, et en décembre à l'Olympia. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Jeanne Chéral.
Bonsoir Eva.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
Je suis enthousiasmée des fois par la nourriture.
Ah bah oui, bah je vous comprends.
En fait, je suis très sensible au sucre lent. Et quand j'ai un petit coup de mou, je viens de manger des pâtes.
Mais c'est une très bonne idée.
Bah voilà, ça m'enthousiasme parce que je le sens tout de suite dans mon corps en fait. J'ai un coup de mou, j'ai un coup de fatigue, là j'ai fait une grosse journée et hop, des pâtes, c'est réconfortant, c'est nul comme réponse. Mais
non, justement, j'apprécie beaucoup cette réponse par sa fraîcheur et son honnêteté. C'était des pâtes à quoi? Excusez-moi d'être un peu voyeuse.
Ah bah c'était seulement de l'huile d'olive et du parmesan.
Ah oui, vous êtes une puriste.
Ah oui, je suis radicale.
Alors, il paraît que dans les métiers que vous aviez envisagés avant la musique, il y avait celui consistant à enseigner.
Oui, c'est vrai, parce que j'ai adoré faire de la philo quand j'étais en terminale. Et j'ai même continué en fac. J'ai fait une licence. Je ne suis pas allée au bout de ma maîtrise, parce que la chanson a pris le pas. Mais j'adorais ça. J'adorais la philo, j'adorais la réflexion, l'introspection, les grands penseurs.
Quel est votre penseur favori, enfin, si vous en avez un ou une idée que vous avez aimée?
J'étais assez branchée Spinoza, notamment pour le côté, c'était quand même assez pragmatique Spinoza. Enfin, j'aimais beaucoup Spinoza.
C'est vrai que c'est quelqu'un qui aide à ne pas se détruire, Spinoza.
Ouais, exactement. Ouais. Très bien résumé.
Alors, dans vos fantasmes, il y avait aussi Médecins sans frontières et vous engagez dans la cause humanitaire.
Bah, quand j'étais petite, ouais, je ne sais pas d'où ça me venait, mais quand j'avais, je ne sais pas, peut-être 8-9 ans, j'avais envie d'être Médecins sans frontières. Je trouvais que c'était un destin honorable.
Mais vous vous engagez quand même, en tout cas vous prenez position, et ce depuis l'adolescence, puisque déjà dans le journal du collège, vous étiez insurgé contre un professeur anti-IVG.
Ouais.
Et c'est un sujet qui compte pour vous, puisque vous avez fait une réponse à Aurélie de Colonel Rayel sur ça aussi.
Ouais, une chanson qui s'appelait, je sais même, Aurélie peut-être.
Colonel, j'ai 16 ans.
Voilà, ma réponse s'appelait Colonel, j'ai 16 ans.
Et sa chanson à lui, Aurélie.
Voilà, et je me mettais dans la peau d'une adolescente qui aurait suivi le conseil pro-vie du Colonel Rayel à l'époque.
De garder son bébé à 16 ans en étant seul.
Ouais.
Vous avez aussi écrit « Quand c'est non », qui a été vite adopté aussi, comme un mantra qui en a aidé certaines. Et vous êtes aussi, vous avez été, Jeanne Chéral, l'une des trois artistes venues de France avec Élise Caron et Emel Matlouti à un concert de femmes en Iran, où les concerts de femmes sont interdits. Il y a un documentaire qui a été fait sur ça, « No Land's Song ».
Ouais, un très très beau film de Hayat Najafi qui retrace notre parcours de combattante, enfin ce parcours de combattante déjà pour aller jusqu'à Téhéran, enfin on n'avait pas les visas, enfin c'était tout un truc, et une fois à Téhéran, en fait c'était il y a plus de 10 ans, je crois, cette épopée, la voix des femmes était inentendable. Ça ne s'est pas amélioré, d'ailleurs. On ne pouvait pas chanter en solo. Et tout l'enjeu du concert, c'était d'interpréter des chansons en solo sans être couverte par la voix d'un homme. Enfin, c'est d'une absurdité, d'une bêtise sans nom. Et je pense qu'il y a eu pour moi, il y a eu un avant et un après ce concert-là, parce que j'ai vraiment pu mesurer ma chance et ma liberté en étant là-bas, parce que je me rendais compte à quel point ce qui est pour moi un acquis est du quotidien, chanter ce que je veux, parler de ce que je veux, m'habiller comme je veux, c'est vraiment pas le cas pour toutes les femmes du monde, quoi. Et vraiment, ça m'a donné une conscience, je crois, cette aventure.
Vous êtes rapprochée d'une association afghane de France ?
Ouais, enfin très succinctement pour l'instant, mais je me sens très évidemment démunie et concernée par le sort des Iraniennes et des Afghanes. À chaque fois que je lis, par exemple dans le Courrier international, quelque chose qui concerne la condition des femmes afghanes, c'est de pire en pire. Et j'ai l'impression que la première chose qu'on peut faire, c'est leur manifester notre soutien, en parler, faire en sorte qu'on les oublie pas.
Quelle petite fille étiez-vous ?
Je crois que j'étais à la fois assez réservée, comme je le suis restée d'ailleurs. Je suis quand même réservée de nature, sauf sur scène bien sûr. Et je crois que j'aimais bien prendre les choses en main, j'aimais bien tendre un drap entre deux chaises et demander à mes parents de regarder.
Un petit spectacle déjà.
Oui, j'aimais bien les petits spectacles.
Alors, j'ai lu aussi que vous étiez très angoissée à vie des insomnies.
Ah oui, c'est vrai.
Vous venez de vous en souvenir ?
Non, mais c'est quelque chose dont j'aime pas trop parler. Mais les insomniaques, je crois qu'ils aiment pas trop ça. Je me souviens
qu'ils font des livres dessus.
Eh ben voilà, Marie Dariussec notamment.
Notamment.
Par exemple, je sais qu'elle a sorti un livre là-dessus il y a quelques années. Oui. Et j'avais hyper envie de le lire, mais en même temps, ça m'angoisse trop.
Sioran en parle beaucoup aussi.
J'ai pas lu non plus.
Ça, il a pas l'air d'aller très bien, donc je vous conseille pas, mais bon, il est quand même très rigolo, je l'adore. Vous pensiez que votre vie était une invention de votre esprit. Qu'est-ce que ça signifie, ça, Jeanne Chara ?
Mais alors, où vous avez pêché ça ?
Dans votre journal intime, bien évidemment.
Oh zut, je savais pas que je l'avais laissé à un père.
Oui.
Je crois que c'est quelque chose que tous les enfants partagent. Et c'est presque une question pascalienne, j'ai envie de dire. Quand j'étais petite, je me disais, si ça se trouve, tout ça, tout ce que je vis, c'est dans ma tête. Non, mais je pense que tous les gamins sont comme ça. Je suis pas du tout exceptionnelle. Tout ce que je vis, c'est dans ma tête. Et en fait, moi, ma vraie vie, c'est d'être allongée. Je me pensais dans le coma, en fait. C'est bizarre.
C'est presque confucéen aussi.
Ah, je sais pas. Confucius ?
Oui.
Je sais pas.
Qui rêve d'un papillon ? Est-ce que c'est le papillon qui rêve ou est-ce que c'est l'homme qui rêve du papillon ?
Exactement, ça va dans le même sens.
Ouais. Mmh. Ou Inception.
En tout cas, j'ai eu une enfance un peu triste.
Non, métaphysique.
Ouais, une enfance métaphysique, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, j'ai écrit un petit livre de mes mots préférés qui s'appelait « À 5 ans, je suis devenue terre à terre ». Et vraiment, l'idée de ce titre, c'est ça. C'est que dans la petite enfance, j'étais totalement métaphysique et j'avais l'impression, rétrospectivement, d'avoir accès à l'idée de partout, à l'idée de toujours, à l'idée de l'infini. Et vers 4-5 ans, ça... Je pense qu'on est façonné après par la société, par notre entourage. Donc à 5 ans, je suis devenue terre à terre.
Ou lucide, quoi, quand le champ des possibles se rétrécit. C'est terrible. En tout cas, entre 10 et 13 ans, vous avez fait beaucoup de danse et vous vous rêviez aussi danseuse. Mais c'était un milieu basé sur l'humiliation.
C'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas.
Vous n'étiez jamais assez mec, jamais assez souple. Là, je vous cite dans Les Inrocs, 2006.
C'est vrai, c'est pas un souvenir très épanouissant pour moi, alors que j'adorais la danse. C'était vraiment, j'en faisais tous les jours dans une petite école
classique
de province. Ouais, de la danse classique, les pointes et tout, c'était vraiment quelque chose que j'adorais. Ma sœur en faisait aussi. Mais je pense que c'était peut-être trop basé sur la compétition, le sacrifice de soi-même pour moi.
Et alors, vous êtes venue à la musique en autodidacte par le piano vers 13 ans.
Ouais.
C'était là que vous avez reproduit Scheller à l'oreille ?
Ouais, exactement. Il est sorti, cet album Scheller en solitaire, quand j'avais à peu près 13 ans. Et ça m'a tellement marquée. Je suis tellement rentrée dans les chansons que j'ai eu envie d'aborder le piano comme ça, quoi, de voir comment j'allais déchiffrer tout ça. J'ai fait toutes les chansons à ma manière. Il y avait certainement plein de fautes, mais je suis arrivée au piano comme ça.
J'en ai marre de rêver de vous, Jean. J'en ai marre de parler de vous, Jean. J'en peux plus de ne penser qu'à vous. Jean, on est connu des plus forts que vous, Jean. On est connu des plus beaux que vous, Jean. sale capitonné, Jean. Vous ne cessez de m'étonner, Jean. Mais assez de vous voir tout donner. Jean, porterai sur l'île déserte, Jean. Le dessin de votre silhouette, Jean. Tracerai les contours dans ma tête. Jean, j'en rirai dans un mois, dans un an. J'en rirai si vous êtes à l'écran. Évidemment. Jean, tendez ici votre rire d'argent qui scintille idyllique et changeant. Et oui, Jean. De tout ça, vous ne savez rien, Jean. Terre ici comme un petit chien, Jean. Mon secret tout au fond du jardin. Jean, est-ce la ligne de votre cul, Jean? Ou vos yeux qui m'ont convaincu, Jean? Que la vie vaut d'être vécue.
Jeanne Chéral, on entend le titre Jean tiré de votre nouvel album. Alors j'ai lu dans une interview, vous qui disiez qu'il s'agissait de Jean Gabin, et dans un magazine à sensation online, comme disent les gens qui aiment faire des anglicismes, ce qui n'est pas mon cas, j'ai vu que c'était Jean Dujardin.
Bah, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi je pense que c'est Jean Gabin.
Bon, c'est, je pense que c'est qui on veut. C'est marrant, tout à l'heure, je faisais une émission où j'ai dit que c'était Jean Bouise.
Ah, en fait, vous dites n'importe quoi, c'est ça.
Eh bien, c'est Jean Valjean.
Mais oui, bien sûr, bah, évidemment, bah oui. Non, mais vous dites qu'on a tous un Jean dans nos vies, une figure inspirante et ludique.
Bah, tous, je le dis pour m'en dépatouiller. Mais effectivement, c'est une personne qui existe, un acteur qui existe et que j'admire, que j'adore, dont j'ai vu tous les films. Je trouve que c'est un Stradivarius dans son domaine, quelqu'un de vraiment très, très
doué. Vous parlez de Gabin, là, ou vous...
Non.
Vous entretenez toujours le mystère.
Toujours, bah oui, non, mais c'est plus intéressant, non? J'ai
donc,
l'impression.
Ouais. Ça peut être Jean Carmet, il y a plein de gens.
Ah, j'avais pas pensé à Jean Carmet.
Bah, ce sera pour c'est la
Jean
prochaine
Carmet,
interview.
C'est la soupe aux choux, c'est mon film préféré.
Ça peut être Jean Villeray, le cousin de Jacques Villeray.
Pourquoi pas?
Que personne ne connaît, que j'ai inventé. Bon, alors, qui est ce Rodrigue qui ouvre et ferme l'album et qui n'est pas un type?
As-tu du cœur? Bah, Rodrigue, c'est une île. C'est une île qui est très chère à mon cœur. Et où je suis allée plusieurs fois. Maintenant, je pense que je vais lever le pied, parce que c'est vrai qu'on a quand même tendance à moins prendre l'avion. En tout cas, c'est mon cas. Et je pense que j'y retournerai sans doute jamais, mais je garde cette destination comme quelque chose de, bah de un peu paradisiaque, quoi. C'est une île qui est au large de Maurice et qui est très préservée. On a l'impression que le temps s'est arrêté dans les années 60, il n'y a pas de panneaux publicitaires, c'est très pur.
Il y a un peu de mélancolie ou de nostalgie dans la chanson Rodrigue, et je vous avais reçu dans Remède à la mélancolie il y a des années. Où
ouais,
en êtes-vous ?
C'est un très bon souvenir.
Ah bah écoutez, pour moi aussi. Et c'est la deuxième fois qu'on se voit de notre vie.
Ouais. Oui, c'est vrai, on ne s'est pas revus depuis.
Non, pour revoir les gens, je les invite.
Vous faites bien.
Quel est votre rapport à la mélancolie aujourd'hui ?
Oh, c'est toujours un rapport ambivalent, parce que je trouve qu'à la fois, c'est quelque chose de très inspirant, la mélancolie, dans laquelle je peux me complaire, je pense, parfois, dans une certaine, un certain état de tristesse un peu douce, un peu comme Charles Denner qui demande à une petite fille dans L'homme qui aimait les femmes... Mais t'aimes bien ça, un petit peu pleurer quand même. Tu pleures, mais c'est agréable quand même. Et oui, elle reconnaît que c'est quand même agréable de pleurer.
On avait mis cet extrait dans Remède à la mélancolie.
Ah bah voilà. Et bah vous voyez, ouais. ça me revient.
Un petit plaisir.
Un petit plaisir, ouais. Ça te fait un petit plaisir. Et puis en même temps, c'est quelque chose de triste et de désagréable. Donc c'est vraiment les deux.
Vous avez eu un album qui s'appelait Jeanne. Vous avez eu un album qui s'appelait Jeanne Chéral, Histoire de J.
Le prochain, c'est La Chéral.
La Chéral, oui.
En live, La Chéral.
Alors, est-ce que, quand on avait, après toutes ces explorations, est-ce que vous connaissez mieux cette Jeanne Chéral ?
Je pense que si je la connais mieux, c'est peut-être pas tant grâce aux chansons que grâce à mes coups bas, enfin mes moments bas, mes moments de... Mes coups durs.
Mais c'est terrible en fait, parce qu'on progresse finalement que dans les coups durs, et parfois on aimerait négocier avec le destin en disant bon, ne passons pas par le coup dur, ayons tout de suite la leçon, apprenons tout de suite sans passer par le bas.
Ah, ce serait super. Mais justement, on va prendre le problème à l'envers et se dire que ce qu'on peut retirer d'un coup dur, c'est mûrir, grandir, enfin c'est vraiment, c'est une récompense aussi après.
Alors, j'ai promis que j'allais révéler les arcanes de l'interaction avec Benjamin Biolay.
Et moi, j'ai promis à mon fils que je dirais chat, donc ça y est, c'est dit.
Ah oui, chat. Eh bien, je le dis aussi, chat.
Ça vient de me revenir.
Vous en avez un ?
Un chat ? J'en ai deux.
Comment s'appelle-t-il ?
Richie et Alain.
Oh là là, alors là, c'est... Oui, écoutez, là, je suis époustouflée. Richie et Alain, on a envie de les rencontrer. Alain comme le philosophe ?
Alain comme Alain Souchon.
Ah d'accord, et Richie comme le philosophe.
Comme Lionel Richie.
Voilà, c'est ça, c'est bien.
Alors revenons à Benjamin.
Benjamin, alors il vous a dit, qu'est-ce que tu fous, tu vas pas chanter Michel Legrand toute ta vie. Je le cite car je ne me serais jamais permise de dire qu'est-ce que tu fous.
Il a dit ça, c'est vrai. Il l'a dit.
Il l'a dit. Oh oui, Jeanne Chéral, il l'a dit. Et vous l'avez pris au mot.
Ouais, parce que j'ai trouvé que c'était très généreux de sa part, que c'était une magnifique preuve d'amitié et d'amour presque. Enfin, il m'aime assez pour me faire confiance et pour me demander de refaire un album. Parce qu'il s'impatientait quelque part. Il était, il aime bien ce que je fais, donc il avait envie que je refasse un disque. Et comme j'avais pas encore le feu, il m'a dit, fais des chansons, je les réalise. Et vraiment, ce déclencheur-là a été hyper bénéfique pour moi. J'ai eu tout de suite. Enfin, je suis rentrée chez moi le lendemain après cette fameuse soirée. Qu'est-ce que tu fous ? Et le lendemain, je me suis mise à écrire. Pendant un an, je l'ai nourri, Benjamin, en piano-voix. Et on s'est retrouvés en studio. Et puis, voilà, c'était d'une fluidité inédite.
Et vous avez décidé de sortir hors circuit.
Ouais, hors circuit des maisons de disques, c'est vrai. C'est une décision que je trouve... Enfin, je dirais pas que c'est la meilleure décision de ma vie, je dirais pas jusque-là, mais pour l'instant, je ne vois que des avantages à avoir fait ça. En tout cas, c'est ce qui me convient en ce moment, avec l'énergie que j'ai. Enfin, je trouve que mon entourage professionnel, il est vraiment parfait. Enfin, je suis entourée de gens bienveillants et qui ont envie d'être là. Ça, l'indépendance, ça change tout.
Je vous ai suivi parce que j'avais envie de rester avec vous.
Vous êtes très gentil, mais je ne peux pas.
Je croyais que vous ne faisiez rien.
Non, je ne fais rien, mais je vous ai dit, j'ai une vie bien remplie.
Une femme me plaît, par exemple, parce qu'un homme que j'admire est amoureux d'elle. Quel plus grand hommage peut-on rendre à un homme que de lui prendre sa femme ?
Depuis que je vous ai rencontré, je me suis fait des petits rêves érotiques avec vous. Et j'ai l'impression que vous ne devez pas être mal au lit.
Ça dépend des jours et des opinions.
Écoutez, mon vieux, je dois vous dire que vos amours commencent à m'emmerder.
Je suis affreuse.
Mais vous avez une façon d'être affreuse qui vous va très bien.
Foutez-moi le camp ! Oust ! Je liquide !
Mon cœur est une fleur d'automne sans ça.
Comme vous êtes beau, comme vous êtes con, comme je vous déteste.
Vous m'avez pris, je vous le donne.
La maman et la putain de Jean Eustache, mon chef-d'œuvre absolu évidemment, et je le dis puisque il y a un titre de votre album Jeanne Chéral qui s'appelle La maman et la putain, et dans un autre titre avec Benjamin Biolay, Faut plus qu'on se revoie, il dit toi qui es la mère et la putain. Mmh. Alors qu'est-ce que ça vous évoque, la maman et la putain, ces deux aspects ?
Ça m'évoque peut-être, ça m'évoque deux facettes de la féminité, mais sous le prisme des injonctions ou des rôles qu'on attribue aux femmes en général. Et cette chanson, La maman et la putain, c'était une manière de raconter comment je me débrouille avec ces injonctions. C'est deux rôles qui sont... c'est pas des rôles opposés, quoi. C'est des rôles au service d'eux, en fait. Et j'ai l'impression... Enfin, j'ai peut-être pas tout à fait dénoué le sens de cette chanson, mais en tout cas, elle m'a fait du bien.
Vous arrivez à vous en affranchir de ces injonctions ?
Je crois. Enfin, en tout cas, je suis. Enfin, je me sens libre hein, quand même. Je me sens libre dans ma vie et je fais ce que je veux. Donc, la réponse est oui.
Dans le cri des loups, on parle d'anciens amoureux toxiques ou plus généralement ce qu'on appelle dans le milieu des lourdeaux. Est-ce que vous avez connu beaucoup de loups ?
Bah, ils sont tous dans la chanson.
Ah, ils le sont vraiment.
Ouais, ouais, ouais. Chaque loup, enfin chaque loup de l'inventaire en tout cas. C'est pas forcément des anciens amoureux. C'est vraiment, ça peut être, bah, comme vous l'avez très bien dit, des lourdeaux, des relous, des grossiers personnages. Et à chaque ligne, celui qui savait mieux que moi ce qui était bon pour moi. Enfin, chaque ligne correspond à un souvenir d'un loup que j'ai connu. Et ce texte, il est né d'une interview de Marilyn Monroe à la fin des années 50. Qui commençait comme ça, les loups que j'ai connus. Et en lisant ça, j'ai été vraiment secouée. Je me suis dit, mais quelle avant-gardiste ! Enfin, elle parlait de ça dans un grand magazine style Time, enfin je ne sais plus, mais elle parlait de ça très librement et elle disait les choses déjà.
Vous avez fait une chanson aussi sur les remèdes à la mélancolie, La vie est trop courte. Et ouais. Dedans, vous parlez de pilules qui vous ont éloigné du suicide.
Oui.
Alors, je sais, en 2021, vous disiez
c'est
déjà.
Gay.
Non, mais vous disiez déjà, bon, vous savez, tout le monde est concerné. Ouais. Vous disiez, grâce à la chanson, je parle de sujets que je n'aborderai pas devant des personnes que je connais.
Ah, ça, c'est vrai.
Voilà, donc est-ce que je peux vous interroger un peu dessus ou vous préférez ne pas en parler et laisser le mystère planer ?
Après, je vais voir où est mon curseur et je vous dirai si ça va pas.
Alors, ce qui est dans cette chanson, vous dites que la vie est trop courte pour souffrir sans remède, pour la vivre à demi et pour devenir son propre ennemi.
Ouais.
C'est difficile de ne pas être son propre ennemi.
Bah oui, on est souvent son propre ennemi, c'est souvent difficile de se supporter soi-même. Et j'avais envie de le dire dans une chanson parce que il existe, enfin, disons que quand j'ai une angine, je n'ai aucune honte à prendre des antibiotiques. Et quand on a une maladie, un mal-être qui est d'ordre mental ou psychologique ou psychiatrique, il existe aussi des remèdes. Donc on est en train, en plus, de dédramatiser la prise de médicaments.
Oui, ça devient de moins en moins tabou. Ouais, puis, enfin, ouais. Je pense que beaucoup d'entre nous ont recours à des béquilles.
Bah oui, c'est normal. C'est pas forcément à vie, d'ailleurs. Hein.
Non.
Je pense que...
Et ça ne stigmatise pas forcément.
Non, c'est sûr que non.
C'est pour ça qu'il faut le dire.
Oui.
Bah, on le dit.
J'en ai pris.
Vous n'en prenez plus, donc ça veut dire que ça va mieux.
Joker.
Joker, voilà, c'est un Joker très très bien placé.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Faut plus qu'on se revoie. Depuis l'été dernier, je ne pense plus qu'à ça, à cet après-midi du mois de juillet, quand les eaux tranquilles se sont réveillées.
Je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas ce qui t'a pris. Je n'ai rien vu venir, je m'y attendais plus. Était-ce l'air de la mer, ou juste du cul, ou cet air sévère que soudain t'avais plus.
Tous les deux, seuls dans la maison des vacances, désertés de tous ses occupants, pourquoi a-t-il fallu que ça recommence ?
Jeanne Chéral, on entend sur votre dernier album, votre duo avec Benjamin Biolay, Faut plus qu'on se revoie. Et c'est le pendant de Brandt Rhapsody qui a été fait il y a plus de 15 ans.
Ouais.
Comment, qui relatait une histoire d'amour du début à la fin, là c'est l'inverse. C'est un couple de parents qui se remet ensemble.
Qui vit un retour de flamme. Ça nous amusait beaucoup, on se disait que c'était un peu notre domicile conjugal à nous. Et avec Benjamin, on est vraiment on est très très connectés dans notre façon d'écrire, dans notre façon de faire de la musique.
Vous l'avez écrit tous les deux, cette chanson ?
Bah, Brandt Rhapsody aussi. Hein.
Ouais.
Ça a été le même processus pour les deux chansons. Voilà, chacun écrit ses parties dans un coin. Après, on va les enregistrer, mais chacun son tour sans que l'autre entende. Enfin, c'est tout un délire.
Et, bah alors pour
et à la fin, ça colle et on est émerveillés, on est contents.
Et Brandt Rhapsody, bon, beaucoup la connaissent, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était ça.
La réunion est à 19h30, précise à l'école. Le précise est souligné. F a encore appelé, il m'a parlé d'un chalet, je n'ai pas compris. Enfin, tu dois mieux savoir que moi. A plus. Le plus est une croix.
Casser 3 œufs, ajouter 1 demi-litre de lait, incorporer 100 g de farine progressivement. Ajouter d'un seul coup 50 g de matière grasse, tu mets moitié beurre, moitié margarine et tu mélanges.
Code réservation QWXXCJ. Mot de passe Casablanca. Départ Orly 9h47. Retour le 23 à 7h15. Arrivée Paris 11h03. Charles de Gaulle. Terminal 3.
Une baguette, crevettes, 3 avocats, sopalin, tampons normaux, produits vaisselle, lait demi-écrémé bio, 6 œufs bio, 7 poubelles, 50 litres.
D'une écriture différente, de papier en tête. FXOR 75 LP, une gélule 3 fois par jour. Après Zolam, 0,50 mg, 6 prises par jour maximum. Puis une signature informe, suivie d'un caducé.
Je te rappelle que tu as un fils qui va à l'école tous les matins et qui aimerait bien prendre le petit déjeuner avec son père de temps en temps. Salut.
C'est sur le délitement d'un couple, Brandt Rhapsody, avec Benjamin Biolay, Jeanne Chéral. C'est malheureusement plus réaliste que Faut plus qu'on se revoie.
Oui, je crois, hélas.
Bon, peut-être, nous ne sommes pas à l'abri des surprises. Chéral, c'est un extrait de votre titre Foutu, dans lequel vous parlez d'une domination acceptée d'un roi maître, au grand étonnement de la personne qui accepte. Ça s'oppose au loup.
Je suis pas à une contradiction près.
Comme tous les êtres intéressants.
Et cette chanson en particulier, elle est née d'un exercice. C'est la seule chanson pour laquelle j'ai fait ça. J'ai demandé à Benjamin de me donner des contraintes. Parce que j'adore travailler avec des contraintes. Et il m'a dit, fais-moi, je me suis fait tout petit au féminin sur un 6-8. Donc 6-8, c'est un rythme de rock 50s comme ça. Ça m'a vraiment inspirée en fait, qu'il me dise ça. Donc c'est...
Je me suis fait tout petit devant une poupée qui dit maman quand
voilà.
On la touche.
Quand je ferai... Ah bah c'est là. Je ferai le beau quand il me sonne. Maintenant, je rampe et je fais le beau quand elle me sonne dans Je me suis fait tout petit. Voilà la clé de cette chanson.
Eh bien, nous sommes dans les arcanes de la création.
Ouais.
J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'éléments, comme le vent, le Sahara sur votre album, et aussi beaucoup de sauvagerie des animaux, notamment des fauves, des choses sauvages. Vous en êtes rendu compte ?
Non, pas du tout.
Tant mieux. Je suis psychanalyste de chansons.
Ah, très bien.
J'ai très peu de clients. Bizarrement.
Est-ce que vous connaissez Vincent De Dienne, redresseur de chansons ? Vous avez vu
non.
ça ? Non, oh, non, mais c'est à voir, c'est à voir.
D'accord, très bien.
Plein de fauves et de sauvagerie. Bah, pourquoi pas, ça me parle en même temps.
Dans Grand et Machance, il est question d'un homme dont l'enfant sauvage est
ouais.
toujours à l'intérieur.
Ouais, c'est vrai.
Bon, écoutez. Dans La Marée, vous parlez du mal qui vous habite et auquel vous voulez dire adieu en dansant.
Oui. Un mal dont j'ai déjà parlé il y a 20 ans dans une autre chanson qui s'appelait 12 fois par an.
Ah bah oui.
Et j'ai eu envie, enfin c'est pas tout à fait intentionnel, mais j'ai eu envie, je m'en suis rendu compte après, de donner un éclairage avec 20 ans de vie en plus, quoi, sur ce que peuvent être les douleurs des règles pour une femme. Voilà, avec la sensation d'arriver un petit peu au bout. Et des fois je me dis, mais si on mettait... Enfin, si on avait une vision du nombre de litres de sang qu'on a versé au cours d'une vie, enfin, c'est vertigineux. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de douleur, tout ça. Je pense à ça, des fois. C'est sympa.
Oh, wow. Dans les mélodies et l'interprétation, on sent, mais je me trompe peut-être, un écho des compositions de Michel Berger pour Véronique Sanson ou France Gall.
Ah, bah, ça me parle beaucoup. Ça fait vraiment partie de, je pense, de mon ADN.
Jeanne Chiral, je dois vous avouer ma candeur parce que quand j'ai vu Itachi Magic Wand comme titre sur votre album, je pensais que c'était une baguette magique de jeu de rôle et pas du tout. Je suis tombée sur un site le qualifiant de vibromasseur légendaire.
Bah oui, légendaire, même ancestral.
Et moi, je ne le connaissais pas.
Non, mais je pense que vous ne le connaissiez pas parce que vous êtes trop jeune, en fait.
Non, pas du tout. Mais alors, écoutez, j'ai roulé ma bosse, je peux vous le dire.
Non, mais quand on le googlise, on tombe sur un objet vraiment pas beau, quoi. Mais c'est lui qui est venu, quoi. C'est lui qui est venu dans la chanson. J'y peux rien, la chanson l'a demandé.
C'est vrai, vous êtes parfois comme ça, comme c'est comme des esprits qui arrivent sur la feuille et vous ne maîtrisez pas tout. Vous ne savez pas où ça vous emmène, l'écriture d'une chanson.
Mais franchement, oui. Franchement, des fois, j'ai la sensation que les chansons s'écrivent. C'est bizarre, hein, mais c'est assez agréable.
Mais en votre présence, tout de même.
Pas toujours, si je plaisante.
Parfois, vous êtes au cinéma et vous revenez,
des fois,
et une chanson est écrite.
Voilà, bah, elle est là. Elle est sur le piano.
Vous dites que chaque disque est un instantané de la femme que vous êtes. Alors, quelle femme êtes-vous et quelle femme étiez-vous ?
Elles sont super, vos questions.
Oh, bah, mec,
oh, j'adore, mais j'adore. Bah, quelle femme je suis aujourd'hui, j'ai l'impression d'être... De très bien me connaître quand même, de bien savoir ce que je ne veux plus, ça c'est sûr. De très bien me connaître, d'être très bien entourée et de n'avoir aucun frein ou boulet dans ma vie. Enfin d'être totalement, d'être légère, voilà. C'est ça, aujourd'hui je suis une femme légère. Et il y a quelques années j'étais encore, j'avais une lourdeur de cœur, une lourdeur d'âme, de vie.
Et comment vous aimeriez évoluer ? Peut-être pas, peut-être que ça vous convient aujourd'hui, ça a l'air
chouette. En m'évaporant.
Ah oui, mais c'est possible, vous savez, je crois que... Enfin, je ne veux pas divulgâcher la fin des existences, mais il paraît que nous mourrons. Oui. Il paraît que nous mourrons et je pense que des choses s'évaporent.
Bah ouais, c'est... je sais pas comment je veux évoluer, mais en tout cas, si je reste sur la ligne sur laquelle je suis en ce moment, c'est pas mal. Mais bon, je sais très bien qu'on n'est fait que de haut et de bas, hein, donc ça ne durera pas, mais j'ai l'espoir.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie.
Georges Moustaki, Les eaux de Mars, reprise d'Aguas de Marzo d'Antonio Carlos Jobim. Vous avez fait des premières parties de Moustaki?
J'en ai fait une il y a vraiment très très longtemps, j'étais quasiment encore bébé.
Et c'est chic sur un CV.
Oh bah c'est génial.
Bébé, vous chantiez déjà?
j'avais 20 ans je pense et c'était le premier concert de ma vie, vraiment. Enfin, ça tombait un peu du ciel cette histoire. Une association qui avait de mon coin dans l'Ouest qui avait invité Georges Moustaki en concert, enfin comme ça se fait en province quoi, dans une salle et tout, et il m'avait proposé de faire la première partie alors que je n'avais jamais chanté nulle part. C'était extraordinaire pour moi et j'ai toujours gardé un lien avec lui. Il est venu par la suite me voir en concert. Enfin c'est un homme que j'adorais.
Quand vous dites dans votre coin l'Ouest, vous parlez de Nantes?
Ouais, là c'était pas à Nantes, je sais plus où c'était, mais c'était dans ma région quoi.
You took my soul.
le morceau Émilie Simon, Mon Chevalier, sur l'album Frankie Knight, comme un chevalier, K-N-I-G-H-T, dans la 20e heure sur France Inter, émission formidable dans laquelle on améliore aussi son anglais. C'était votre choix musical, Jeanne Chéral, et je vous laisse nous dire pourquoi. C'est un morceau qui vous émeut.
Énormément. Ouais, c'est un morceau qui me touche beaucoup. Et je l'ai choisi, mais sans me dire que ça allait m'émouvoir à ce point. C'est un peu... Mais c'est ça aussi la force des chansons. C'est
oui.
Tout m'émeut dans ce morceau. Sa composition, les arrangements qu'Émilie Simon a fait, sa voix, le contexte dans lequel elle a écrit ce morceau. Elle venait de perdre son compagnon, qui s'appelait François. Et je trouve que c'est... qu'elle a sublimé. Enfin, pour moi, c'est vraiment la sublimation de la souffrance au dernier degré, quoi. Enfin, c'est magnifique, magnifique.
Dans vos goûts musicaux qui sont très éclectiques, il y a Sonic Youth depuis très longtemps.
Ouais.
Il y a aussi des Chambalinets et Meredith Monk. Est-ce que vous voulez dire un mot sur Meredith Monk ?
Bah ouais, Meredith Monk, c'est une chanteuse américaine. Très expérimentale, une chanteuse contemporaine, une tête chercheuse que j'adore et que j'écoutais beaucoup déjà adolescente, parce que j'avais une copine qui s'y connaissait beaucoup. Elle avait deux grands frères au lycée qui écoutaient de la musique contemporaine, la musique répétitive, et on écoutait Meredith Monk en étant consciente qu'on avait accès à quelque chose auquel les autres n'avaient pas accès. Et ça, c'était deux fois plus jouissif. Et Meredith Monk, elle base tout sur la voix, sur l'expérience de la voix et jamais la joliesse, vraiment sur qu'est-ce que c'est qu'une texture vocale. Enfin, je rêve de la voir en concert. Elle joue des fois en France, mais à chaque fois, j'avais un concert le même soir. Enfin, je jouais là en même temps, ça s'est jamais bien tombé. Mais je désespère pas.
Bon, ça va venir. En tout cas, je vous ai demandé une découverte et voici quelqu'un qu'on a découvert grâce à vous, Jeanne Chéral. Plantine de Couperin, jouée par la pianiste ukrainienne Marina Baranova sur son album Hyper Suite, une pianiste qui vit en Allemagne, que vous avez découverte, Jeanne Chéral, sur Instagram.
Ouais, c'est vraiment le bon côté des réseaux sociaux. Je l'ai découvert, alors je sais plus trop comment, mais je suis tombée folle de cette artiste. Une pianiste, donc là, sur cet album Hyper Suite, elle joue Rameau, elle joue Couperin, vraiment des pièces ultra classiques, mais qu'elle réarrange à sa manière. Enfin, ça me touche énormément, elle est géniale. Et elle est à Paris en ce moment, je veux absolument la rencontrer.
Vous correspondez un peu ?
Ouais, on s'écrit.
Alors parlons un peu de votre cinéphilie. En 2022, vous faisiez un spectacle cinéma dans lequel vous revisitiez des classiques du 7e art comme Pulp Marine ou Reality dans la Boom.
Ouais.
Et aussi des choses pour lesquelles vous avez été surpris. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aimiez les contraintes et là, vous aviez Thierry Frémaux comme interlocuteur.
Comme contrainte.
Oui, bah oui, mais il vous a donné des idées assez rigolotes.
Ouais, bah c'était super. Ce concert cinéma de bande originale, c'était son envie à lui au départ. Il voulait que je monte un concert de deux chansons de film pour son festival Lumière à Lyon. Et puis c'est une aventure qui m'a tellement amusée, qui m'a tellement plu que j'ai fait 50 dates, je l'ai joué à New York. Enfin bon, c'était vraiment une super expérience. Et ça partait... Enfin, disons que c'est un répertoire infini. Donc il y avait du François de Roubaix, il y avait du Philippe Sard, évidemment Demi Le Grand. Enfin, c'était vraiment un super voyage cinématographique.
Il y avait aussi Jésus revient.
Ah oui, bah oui.
Dans La vie est un long fleuve tranquille.
Ouais. D'ailleurs, on en avait parlé à Remède à la mélancolie, il me semble.
Oui, il est possible revient, qu'on l'ait diffusé.
Ouais.
Jésus revient, ça me revient. Qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir vos chansons interprétées par Catherine Deneuve dans le film Yokai, le monde des esprits d'Éric Kou?
Bah, j'étais super honorée. C'est magnifique d'être interprétée comme ça par une actrice de cette envergure, enfin, par l'actrice. Dans ce film, elle incarne une chanteuse qui fait sa dernière tournée au Japon. Et il lui fallait un répertoire. Et j'ai eu la chance, grâce à la productrice du film, Mathilde Inserti, voilà, qu'on embrasse d'ailleurs, qui est devenue une amie, d'écrire ses chansons, de les enregistrer vraiment en catimini, juste avec Catherine Deneuve en studio, comme ça. Enfin, c'était un moment très doux et vraiment génial. C'est un super souvenir.
J'ai connu Max par Picasso, dont il était l'ombre heureuse. On l'adorait et on le brimait. Il se faisait un monde de ses brimades, comme Jean-Jacques. Il y avait du Jean-Jacques chez Max, une attitude de poète, maladroit, de gaffe au milieu d'une chasse à cour d'encyclopédiste. Je ne parle pas de Picasso ni d'Apollinaire, qui le moquait, mais qui l'aimait du fond du cœur. Max était un poète merveilleux, et il n'avait rien de ce qu'il est convenu d'appeler un poète. Il était un jardinier en sabots. Des tonnes de fleurs lui sortaient de l'âme.
C'est Jean Cocteau qu'on entend au sujet de Max Jacob. Jeanne Chéral, votre maîtrise de philosophie à l'Université de Nantes, portait sur le poème en prose chez Max Jacob. Et j'aimerais bien, comme j'aime bien, qu'on termine sur des recommandations, que vous nous parliez un petit peu de votre goût pour lui.
Oh bah Max Jacob, oui, ce que j'aimais, c'était la simplicité de son écriture et... Oh, c'est loin, mais en même temps, je garde vraiment une tendresse, un attachement pour sa figure. C'est quelqu'un qui a une vie très difficile. Il est mort, je crois qu'il est mort au camp de Drancy. Donc c'est une catastrophe, ouais. Quoi. Mais je me souviens que mon directeur de mémoire, Philippe Beck, qui est un auteur aussi, qui était mon professeur d'esthétique à la fac de Nantes, c'est vraiment lui qui m'avait amené vers Max Jacob. Donc je le salue.
Eh bien, on salue beaucoup de gens ce soir et on salue aussi Flaubert, l'auteur de Madame Bovary, que vous avez lu au moins 3 fois à 20 ans, 30 ans et 40 ans.
Ouais, c'est vrai. Bah, franchement, je recommande parce que...
Ah bah oui, pour recommander Flaubert.
non, mais je recommande l'idée de...
Ah oui, l'idée relire.
Un petit auteur assez un prometteur, ah, ça oui, peut marcher, vrai. Ça peut marcher. Non, très mais l'idée de relire un texte comme ça, aussi fort, à plusieurs périodes de sa vie, parce que vraiment, on en retire quelque chose de différent à chaque fois.
Alors, vous aimez aussi, on n'a pas le temps de tout citer, mais La femme gelée d'Annie Arnaud, King Kong Théorie, oui. De Virginie Despentes, l'écriture musicale de Philippe Jaénada, Heureux les heureux de Yasmina Reza. Et on a 40 secondes pour dire un petit mot sur, pas Passion simple d'Annie Arnaud ou Histoire d'eau, mais Fraise et chocolat, la bande dessinée d'Aurélia Horita.
Bah oui, une bande dessinée érotique magnifique. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre d'Aurélia Horita. Elle raconte sa rencontre avec son compagnon de l'époque, Frédéric Boilet, et c'est magnifique. Mais alors, c'était très avant-gardiste aussi.
Et Histoire d'eau, alors ?
Histoire d'eau, c'est différent.
Oui, c'est différent, ça c'est sûr.
Mais il faut le lire aussi, Histoire d'eau.
Bon, bah alors là, parce que là, vous savez que moi, je regarde l'horloge qui est face à moi et qui égrène les secondes, et il faut qu'on tienne encore pendant 10 secondes, alors aidez-moi, Jeanne Chéral.
Venez tous me voir à l'Olympia.
Bah voilà, en décembre. Ouais. Mais je vais redire toutes les dates de toute façon.
D'accord.
Ça va bien ?
Bah ouais, c'est bien.
Oui,
ouais,
okay.
Ça va. Merci beaucoup, Eva, non, pour votre accueil. Et
mais je vous en prie, merci beaucoup, Jeanne Chéral.
Votre délicatesse.
Merci beaucoup, Jeanne Chéral. Votre nouvel album Jeanne est sortie le 4 avril et vous êtes actuellement en tournée. Prochaine date, le 12 avril à Nantes, oui. Le 18 avril au Printemps de Bourges, le 27 et 28 mai au Théâtre des Abbesses à Paris, déjà complet hélas, mais vous serez à l'Olympia le 2 décembre prochain et on peut retrouver toutes les dates aisément sur Internet. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Etal Alzial et Emma Bouvier. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Loïs Moreau. À demain, 20h10.